Bonjour Gérard Haro.
Bonjour.
Le 45e sommet du G7 s'est refermé hier après-midi à Biarritz. On va revenir sur les moments et points marquants de ces 2 jours et demi de discussion. Mais d'abord, votre impression générale. Est-ce que vous diriez que ce G7 a été une réussite ?
Oui, je pense que l'on peut dire que c'est une réussite. Une réussite, ça se définit par rapport aux attentes. Alors tout d'abord, les attentes par rapport au format du G7. À l'origine, le G7 a été créé par Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70. L'idée était, vous le savez, de réunir de manière informelle un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. Donc, théoriquement, ce n'est pas une enceinte pour prendre des décisions, c'est plutôt une enceinte de concertation. Puis ensuite, ça s'était un peu bureaucratisé et Emmanuel Macron a voulu revenir à l'idée originelle. Donc, il n'y a pas eu de communiqué, ces communiqués interminables que personne ne lisait. Deuxième succès, c'est évidemment la question de Donald Trump. Donald Trump, qui l'an dernier avait fait un esclandre, au dernier moment, il avait refusé le communiqué qu'avait négocié sa propre délégation. Je crois que Emmanuel Macron a réussi à gérer la personne de Trump et donc tout s'est relativement bien passé.
Vous nous dites plutôt un succès, Gérard Haro. Est-ce qu'il faut attendre malgré tout les prochains tweets de Donald Trump pour en être sûr ?
Ah là, Donald Trump est totalement imprévisible. Tous les chefs d'État ont été les victimes de ces tweets. Madame Merkel plus que d'autres, mais aussi Theresa May, on s'en souvient, et Emmanuel Macron après le 11 novembre 2018. Mais là, apparemment, Donald Trump est parti satisfait. Il l'a dit, il l'a répété dans sa conférence de presse. Il a félicité le président de la République pour son accueil. Donc, je crois que nous n'avons pas, au moins pour un certain temps, à craindre de tweets de Donald Trump.
Est-ce qu'on peut dire que le président français a réussi à contenir cet imprévisible président américain ?
Vous savez, depuis le début, je crois que Emmanuel Macron, d'ailleurs il me l'a dit, ne se fait pas en gros d'illusions, si j'ose dire, sur Donald Trump. Il sait très bien qu'il ne peut pas vraiment influencer, contrôler ce président qui est incontrôlable, mais il veut garder une relation de travail avec l'homme le plus puissant de la planète. Ça, je crois que, de ce point de vue-là, il a réussi à maintenir cette relation qui est bien utile, parce que à l'heure actuelle à Washington, il y a une seule personne qui prend des décisions, c'est Donald Trump. Quand j'étais ambassadeur, souvent Paris me posait des questions, et j'ai été obligé de dire, je suis désolé, les gens, les hauts fonctionnaires à qui j'ai accès ne sauront pas la réponse, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui la connaît, et c'est Donald Trump, et il faut donc que Emmanuel Macron appelle Donald Trump, ce qu'il pouvait faire.
C'est quand même une des premières fois, hein, depuis son élection, qu'on le voit en quelque sorte gentil participant à un sommet international, pas forcément dans le rôle du perturbateur.
Oui, c'est
une nouvelle facette.
Le charme et la psychologie d'Emmanuel Macron. Et puis, il faut surtout ne pas lui offrir l'occasion d'une certaine manière d'exploser. Vous savez, son équipe nous donnait, moi, quand il a été élu, son équipe nous donnait des clés psychologiques du personnage. Il ne fallait pas le prendre de haut. Il ne fallait surtout pas donner l'impression qu'on avait l'avantage sur lui, notamment d'un point de vue médiatique.
Donc il y a une forme de réconciliation entre les deux hommes. De toute façon, il n'y a pas le choix.
Il n'y avait jamais eu de rupture. Parce qu'après l'éclat du 11 novembre, je me rappelle, j'avais appelé tous les membres de l'équipe de Trump et la réponse avait été « Oh, ne vous inquiétez pas, tout le monde y est passé par là, on y passe par là tous les jours, c'est un éclat, mais ça ne met pas en cause la relation ». Et d'ailleurs, après, les deux hommes se sont parlés sans doute des dizaines de fois au téléphone. Non, la relation de travail a toujours été là.
Gérard Haro, l'événement sans doute le plus marquant de ce sommet, c'est l'avancée sur le dossier iranien, avec la venue surprise du ministre iranien des Affaires étrangères à Biarritz, le président américain qui se dit prêt à rencontrer son homologue iranien Hassan Rouhani dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il peut y avoir une inflexion de l'administration américaine sur ce dossier qui est extrêmement sensible ?
Alors, tout d'abord, de nouveau, l'administration américaine, entre guillemets, ça n'existe plus. C'est Donald Trump. Donald Trump, lui seul, qui gère les affaires.
C'est bien de le préciser, Gérard Haro.
Et notamment l'Iran. Sur l'Iran, le raisonnement de Trump est simple. Je tords le bras des Iraniens et les Iraniens vont canner. Voilà.
C'est aussi simple que ça. C'est une négociation commerciale, en quelque sorte.
Voilà. Exactement. Je tords le bras des Iraniens, ils vont devoir canner. Le problème, c'est qu'évidemment, ce n'est pas si simple que ça. L'Iran est un pays qui a une certaine idée de lui-même. Ce n'est pas Kim Jong-un qui, du jour au lendemain, peut prendre une décision et décider d'aller rencontrer Trump. Les Iraniens sont fiers de leur pays, de leur histoire, de leur civilisation. Et donc, le travail pour Macron, qui a de bonnes relations avec le président iranien, c'est d'essayer de créer, au fond, un canal diplomatique entre les deux pays. Et donc, ça fait maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'il est au téléphone avec Trump, avec Rouhani, pour essayer tout d'abord de baisser la tension, et enfin d'aller vers une rencontre. Après tout, Trump a rencontré Kim Jong-un deux fois, ou trois fois, pourquoi est-ce qu'il ne rencontrerait pas Rouhani?
Oui.
C'est un petit peu ça, c'est l'objectif. L'objectif de Macron, c'est ça.
Durant sa campagne électorale, Trump avait promis de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. Il parlait de désastre. Est-ce que ses électeurs pourraient comprendre un revirement sur ce dossier?
Vous savez, ces questions sont des questions extrêmement complexes à comprendre. Hein. Et donc, si demain Trump, par exemple, dit qu'il a réussi avec la Corée du Nord, que c'est un extraordinaire succès diplomatique, tous les spécialistes vous diront que rien n'a changé, que les Nord-Coréens continuent poursuivent leur programme nucléaire. Mais Trump trompette tous les jours à quel point c'est un succès. Donc je pense qu'il est prêt à faire la même chose avec les Iraniens. S'il rencontre le président Rouhani à Genève un jour, après il pourra dire, vous voyez, ça y est, le problème est résolu. Pourtant, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est ce qui le concerne lui. C'est un narcissique absolu. Donc, est-ce que, s'il rencontre Rouhani, ce sera déjà pour lui un succès, et ce sera pour nous aussi une baisse de la tension, puisque nous sommes quand même à la merci d'un incident dans le Golfe. À tout moment, il peut y avoir, la guerre peut éclater. Certains parlent d'un moment 1914 au Moyen-Orient, entre d'un côté les Américains, soutenus par les Émiratis, les Saoudiens et les Israéliens, et de l'autre les Iraniens.
Gérard Haro, vous avez mis fin en avril dernier à 37 ans de carrière diplomatique. Vous publiez début octobre vos mémoires. Il se dit que certains tremblent au Quai d'Orsay, craignant votre liberté de ton. Ils ont raison de s'inquiéter? Non, ça vous fait sourire.
Non. Je publie en effet chez Grasset, passeport diplomatique, le 2 octobre. Non, c'est plutôt, j'essaye d'expliquer à travers les crises que j'ai eu à traiter, l'Iran, l'OTAN, l'Israël-Palestine, la Libye au Conseil de sécurité, le Rwanda, comment s'élabore la diplomatie. Parce que c'est un peu mystérieux pour vos éditeurs, les ambassadeurs, c'est un petit peu Ferrero Rocher, etc. Et c'est à essayer de comprendre, de dire voilà ce comment on essaye de prendre des décisions, voilà les erreurs que l'on peut commettre. Donc c'est assez pédagogique, mais sur la base d'expérience personnelle, de vraies négociations.
Oui, sur du vécu. On n'attend rien de foncièrement croustillant, alors, Gérard.
Oh, il y aura bien quelques, il y a quand même quelques anecdotes quand même. Bon,
très bien. Juste
contenu.
On vous lira avec grande attention et on vous retrouvera certainement à ce moment-là. Merci d'avoir été en ligne avec nous pour décrypter ce sommet du G7.
Merci beaucoup. Au revoir.